Pour les spécialistes de la gestion de crise comme Fabrice Pelosi, la Malaisie a multiplié les erreurs.
Ici, très rapidement, la Malaysia Airlines va céder, en quelque sorte, à la pression médiatique. Et là, on est dans une situation très paradoxale. Parce qu'au final, parfois, on peut reprocher à des entreprises de ne pas être assez transparentes. Ici, la Malaysia Airlines est très transparente.
Très transparente ou trop transparente? Dès le début de l'affaire, un responsable malaisien se fait particulièrement remarquer. C'est Hishamuddin Hussein. Un personnage important puisqu'il gère à la fois la défense et les transports. Alors ce ministre était-il suffisamment préparé à une telle crise?
The Beijing government will announce this in a couple of hours. This floating object is 22 meters long and 30 meters wide. I wouldn't know. This is all I have. This is all I have.
À la vue de ces images, le professionnalisme des autorités malaisiennes est remis en cause.
On le sait aujourd'hui, les chaînes d'information en continu ont besoin d'être nourries. Voilà, donc il y a cette pression. Ici, quand le porte-parole dit « c'est tout ce que j'ai », eh bien, on a l'impression que tout ce qu'il a, ça tient sur un bout de papier.
Un simple bout de papier, c'est bien peu pour rassurer les familles. Au fil des conférences de presse, les annonces vont se multiplier et entraîner ainsi désarroi et confusion. Les familles des victimes n'ont pas le même sentiment sur cette rencontre.
Fact is, they didn't give us any convincing information.
Donc, dès la première semaine, je me dis, on veut nous cacher quelque chose.
La communication est chaotique et ce n'est pas la façon dont sont menées les recherches en mer de Chine qui rassure les familles des victimes.
Le problème, c'est que ces mers de Chine, non seulement on devrait avoir eu des débris, et il y a du monde, quoi.
Il n'y a effectivement aucun débris repéré, alors que la mer de Chine est l'une des plus fréquentées du monde.
Or là, on a un B777, qui est le cheval de labour de l'aviation civile, qui disparaît. Donc je dis, c'est juste une insulte à l'intelligence humaine. On n'a même pas besoin de dire, est-ce qu'on nous ment? Ça n'a aucun sens.
Toujours à propos de la mer de Chine, Florence de Changy a identifié un autre élément passé sous silence.
Il y avait d'une part une très grosse campagne d'exercice militaire annuel qui s'appelle Cobra Gold.
Avec 7 nations impliquées, Cobra Gold est l'un des exercices militaires les plus importants dans cette région du globe. Mais ce n'est pas tout.
Celle qui allait commencer un ou deux jours plus tard, c'était Tiger Cope. Et là, c'est tripartite seulement. Et c'est les trois défenses les plus importantes de la région, en l'occurrence Thaïlande, Singapour et États-Unis.
C'était donc deux exercices militaires de très grande envergure. Une présence qui pourrait ouvrir la piste d'un accident impliquant les militaires. Cette hypothèse expliquerait la boule de feu vue par Mike McKay et la brusque coupure des communications de l'avion. Il est tout de même étrange que dans ses déclarations, le fameux ministre de la Défense et des Transports malaisien ne fasse aucune mention de la présence de ses militaires dans la région.
On n'en a jamais entendu parler.
Mais moi, ce que je crois, c'est un, on nous ment. Enfin, on sait la vérité, on n'oublie pas la vérité. Et pourquoi? C'est une sale histoire.
Bref, pour dire les choses clairement, selon Guylain Vatrolos, la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines serait liée à une bavure militaire.
Donc si l'avion il tombe tout de suite en mer de Chine, c'est qu'il est abattu. Donc il y a deux solutions. Il est abattu ou c'est possible aussi qu'il se prenne. Un avion militaire se prenne un avion civil, ça peut arriver. Au début j'ai confiance. Au début je me dis... Il y a plein de Chinois dans l'avion, les Chinois ne sont pas marchés sur les pieds, on va vite savoir ce qui s'est passé.
Revenons en arrière. Le 9 mars 2014, soit le lendemain de la disparition de l'avion. Alors que les familles désespèrent et que les recherches s'activent, les militaires vont faire une révélation incroyable.
En fait, nous avons regardé l'enregistrement des radars et nous avons constaté la possibilité que l'avion ait fait demi-tour.
Si l'on s'en tient à la chronologie, l'armée malaisienne est donc au courant du demi-tour dès le lendemain de la disparition du MH370. Alors, pourquoi avoir continué les recherches en mer de Chine ? Mais ce n'est pas tout. Deux jours après l'annonce du demi-tour, le ministre de la Défense et des Transports lui-même vient démentir l'existence de ce même demi-tour. Inaccurate. Sans fondement. Pourquoi cette nouvelle contre-information ? En tout cas, ce nouveau cafouillage va faire perdre un temps précieux aux recherches. Mais ce n'est pas fini. Au bout du cinquième jour, nouveau revirement. Les officiels vont finalement confirmer ce que tout le monde avait compris. Le MH370 aurait bien fait demi-tour. Les recherches sont aussitôt abandonnées en mer de Chine pour se concentrer sur la mer d'Andaman. L'avion a disparu depuis déjà 5 jours.
Quand au bout de 5 jours, où on a cherché en mer de Chine, on nous dit on a vu l'avion dans la mer d'Andaman, est-ce que c'est une incompétence ou est-ce qu'on cache quelque chose ? Moi, je crois qu'on cache quelque chose. Et c'est là que je porte plainte. Parce que je me dis, il y a un problème. On va nous cacher la vérité. Et pour moi, depuis le cinquième jour, on nous cache la vérité.
La planète entière regarde la Malaisie et c'est l'incompréhension. Demi-tour, pas demi-tour et re-demi-tour, il y a de quoi s'interroger. Si on accepte ce demi-tour, comme on sait qu'il n'y a eu ni problème technique ni incendie, une seule explication semble plausible.
Au départ, il y a eu un détournement de l'avion. Tout ce qu'on peut dire.
L'avion est piloté et cette trajectoire, elle est voulue. Donc ça, quelque part, pour faire cette trajectoire, il faut l'avoir programmée, il faut l'avoir étudiée.
Pour quelle intention ? Je ne sais pas.
Face au cafouillage des autorités malaisiennes, les familles des victimes perdent définitivement confiance. À l'époque, à ce stade de l'enquête, ce dont on est sûr, c'est que l'avion a décollé normalement de Kuala Lumpur, qu'il a ensuite suivi sa route sans encombre, et que, au bout de 40 minutes, toutes les communications se sont brusquement interrompues, sans raison apparente. À partir de là, les militaires s'appuyant sur les traces de leur radar affirment que l'avion aurait fait un demi-tour. Pourtant, il faudra attendre 4 ans pour que le rapport officiel conclue au détournement du MH370. Les enquêteurs ayant disculpé les passagers et les pilotes, il n'exclut pas la possibilité qu'une tierce personne soit intervenue. Mais pour Florence de Changy, cette thèse ne tient pas la route. La journaliste remet en cause la faisabilité même d'un tel demi-tour.
Il se trouve que dans le tout dernier rapport, ils ont fait des tas de tests et ils arrivent in extremis, avec un certain nombre de conditions, à faire ce U-turn au B777.
Pour affirmer l'existence de ce demi-tour, les Malaisiens s'appuient sur les traces détectées par leur radar militaire. Ces traces sont donc la pierre angulaire du rapport officiel. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette version des choses.
Et encore une fois, c'est des traces radar qui ne donnent pas quel avion non plus. Donc on n'est pas sûr que sous cet avion-là.
Il y a certaines personnes qui, ayant regardé la trajectoire d'après les données radar, pensent qu'il s'agirait plutôt de deux avions différents, c'est-à-dire que le premier bras de l'épingle à cheveux, c'est le MH370, le deuxième, c'est un autre avion.
Pour Florence de Changy, il n'y a donc pas eu de demi-tour. L'avion aurait interrompu son vol au-dessus de la mer de Chine, victime d'un tragique accident. Mais les autorités malaisiennes nous ont présenté des traces radar qui disent que l'avion a continué sa course. Pour appuyer la thèse du demi-tour, le rapport officiel propose une preuve étonnante. Le téléphone portable du copilote aurait été repéré au-dessus de la péninsule de Penang, alors que l'avion volait à 10 000 mètres d'altitude et à 900 km/h. C'est-à-dire trop vite et trop haut pour qu'un téléphone portable puisse être détecté. Et il y a une autre raison de douter de l'existence de cette connexion.
Bon, déjà, il y a 239 personnes, donc il y a à peu près 200 téléphones. Si le téléphone du copilote borne, il y a une dizaine, il y a une vingtaine de téléphones qui doivent borner aussi, là. Donc là, encore une fois, il y a un problème.
Un problème, peut-être, mais pas pour l'enquête officielle. Continuons à examiner le rapport d'enquête. Si l'on admet le trajet retenu par la thèse officielle, le MH370 aurait forcément survolé la base militaire internationale de Butterworth, c'est-à-dire la base militaire la plus importante de la région. Elle regroupe la Malaisie, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Le 8 mars 2014, un Boeing 777, tout feu éteint, ne répondant à aucune communication radio, aurait survolé la base. Comment expliquer que les militaires n'aient pas du tout réagi ? Dans une interview incroyable, réalisée 3 mois après le drame, Hishamuddin Hussein, ministre de la Défense malaisien, répond à une journaliste australienne. Pourquoi cet appareil n'a-t-il pas été intercepté ?
Are you going to say that we're going to shoot it down?
Well, you said that, not me.
No, I'm asking you.
I could not possibly answer that. I'm not a minister of defense.
If you're not going to shoot it down, what's the point of sending it up?
To see where it's going.
Well, to see if going, you need a fighter for that? If you're talking about military procedures. And if I did shoot it down, you'd be the first to say, how can you shoot down a commercial airline with 14 nationals, half of them Chinese? I'd be in a worse position, probably.
Why shoot it down if it's not hostile?
Well, the Americans would.
Comment interpréter ce sourire? Quoi qu'il en soit, l'enquête officielle conclut que cet avion ne représentait aucune menace et qu'il était amical. Mais comment le savait-il alors qu'aucun contact n'avait été pris avec l'appareil? Encore une zone d'ombre. Examinons à nouveau la trajectoire du MH370 selon la thèse officielle. L'avion a décollé de Kuala Lumpur à minuit 42. Après 40 minutes de vol, la totalité de ses moyens de communication se sont interrompus. À partir de là, nous sommes dans les suppositions émises par le rapport officiel. Après l'interruption des communications, le MH370 aurait fait un demi-tour et serait reparti vers la Malaisie. Mais pour ne pas être repéré, il aurait réussi à naviguer en s'assurant de voler précisément juste au-dessus des frontières malaisiennes et thaïlandaises. Ensuite, il aurait survolé la base militaire de Butterworth avant de s'engouffrer dans le détroit de Malacca.
Ok, on a les traces radar malaisiennes soi-disant. Mais encore une fois, pour moi, si l'avion fait le trajet qu'on nous dit qu'il a fait, il ne doit pas seulement y avoir que des traces radar malaisiennes. Le radar, il ne s'arrête pas à la frontière. Et encore une fois, il n'est pas resté qu'en Malaisie, cet avion.
Effectivement, si on s'appuie sur la trajectoire retenue par le rapport officiel, le MH370 aurait dû être repéré plusieurs fois par les radars militaires des pays limitrophes. Mais comme ces autres pays ne se sont jamais manifestés, reste à faire confiance à la Malaisie.
Comment se fait-il que seulement la Malaisie dit « j'ai pointé 2 fois l'avion » ?
Pour Jean-Paul Troadec, il faut faire attention aux données qui sont utilisées au cours de l'investigation.
C'est toujours un peu délicat, si vous voulez, de s'appuyer sur des informations fournies par les militaires pour faire une enquête sur un accident civil.
Ce que je dis surtout, c'est qu'on en a...